dit, et nous arrivons maintenant à notre... Ça va vite finir, hein, on arrive à nos dernières soirées. Et nous allons procéder comme les autres jours, puisque nous avons un peu modifié, puisque nous nous laissons conduire par l'esprit, la manière dont nous passerions nos soirées. Donc le thème de cette semaine biblique en ce mercredi 8 juillet, nous avons intitulé « Les œuvres de la foi ». Parce que nous avons bien compris qu'une foi sans œuvre, comme le dit l'apôtre Jacques, elle est morte. Et ce que nous étudions le matin, c'est les responsabilités, c'est les responsabilités et les privilèges d'un père chrétien. Aux enfants, nous parlons des mamans, de quelques mamans de l'Écriture, et le soir, nous parlons des responsabilités et des privilèges d'un père, et nous nous inspirons des vies d'hommes qui se trouvent dans la parole et qui ont été des pères. On a vu Abraham, on a vu Job, on a vu Jacob comme père, et enfin hier soir, je vous ai cité Josué, qui arrive à la fin de ses jours en pouvant dire au nom de toute sa famille, à 110 ans, il parle encore au nom de tous ses enfants, de tous les siens, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il ne contraint pas Israël de faire comme lui. Il dit, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Mais en tout cas, moi, et je peux parler au nom des miens, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça m'a fait penser à une soirée au camp Jolibé, dans l'Abitibi, il y a plusieurs années. C'était la dernière soirée, et je parlais sur cette fin du livre de Josué. Et il y avait là des boulots, on était dehors, c'était une réunion en plein air devant les boulots, ceux qui connaissent Jolibé le savent, Rachel en particulier, et Muriel, hein, et derrière il y avait le lac, et c'était le soir. Et j'étais saisi par l'esprit, et j'ai dit, Dieu, je prends ces boulots à témoin, comme Josué a dit, je prends ces pierres à témoin, que vous avez choisi l'Éternel, bien je prends ces boulots à témoin, comme quoi vous vous décidez vraiment pour le Seigneur, si dans votre cœur vous sentez son appel. Et à ce moment-là, derrière moi, qu'est-ce qui s'est passé? Une merveilleuse aurore boréale. À ce moment-là, hein, tout s'est illuminé derrière. C'était l'aurore boréale, parce qu'il y a souvent des aurores boréales là. Je m'en souviendrai toujours. Au moment où on a dit, nous prenons ça à témoin, c'est comme si le Seigneur avait voulu nous donner encore toute sa lumière. Mais il nous faut être sérieux quand nous sommes en face d'un appel du Seigneur. Alors, ce soir, après le partage que nous allons avoir sur le chapitre 3 de Jacques, que nous avons étudié ce matin, je vous citerai en exemple, ça sera très court aussi, mais trois pères qui, malgré leur titre et leur fonction, eurent de grandes lacunes en tant que père, parce que la Bible, justement, est là pour nous enseigner les choses que nous ne devrions pas faire. Et ces trois pères qui ont eu de grandes lacunes sont pourtant des hommes importants. Un, il était sacrificateur. Comment s'appelait-il? Élie. L'autre s'appelait Samuel, et il était prophète. Et pourtant, ce jeune Samuel, qui avait entendu la voix du Seigneur, au point de vue de sa conduite comme père, il n'a pas réussi. Et un troisième homme, haut placé, choisi par Dieu, qui s'appelait David, et qui était roi. Donc, un sacrificateur, un prophète, et un roi qui... pourtant, n'ont pas été en tant que pères ce
ce qu'ils auraient dû être. Alors nous voulons maintenant, nous autres, essayer de comprendre quelles ont été les lacunes de ces hommes. Nous ne sommes pas ici pour les juger, mais pour nous laisser enseigner par leur exemple et profiter de leurs expériences. Parce que voyez-vous, comme nous l'avons dit, ce qu'un homme sème, cela aussi, il le moissonnera. Il y a une explication au sujet des défaillances de ces trois pères. Ils n'ont pas suivi la parole de Dieu. Et quand on ne veut pas suivre la parole de Dieu, même quand on la connaît, parce que c'est ça l'épître de Jacques, il ne suffit pas de la connaître, d'écouter, mais il faut mettre en pratique. Et si vous ne voulez pas mettre en pratique ce que vous connaissez, ne venez pas vous plaindre des conséquences de vos inconséquences. Il est dit dans l'Écriture que Dieu visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération, mais qu'il bénit aussi la fidélité d'un père jusqu'à combien de générations ? 1000 générations. Donc, vous voyez que la miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement. Mais je pense que nous avons quand même des leçons à retirer de la vie de ces hommes. C'est ce qui nous occupera à la fin de la réunion. Maintenant, nous allons nous en remettre au Seigneur et vous donner à vous la parole. J'avais cru comprendre qu'on avait vraiment bien saisi qu'il ne fallait pas mettre le micro de mon côté, hein, mais de l'autre côté, pour que... Ah oui, mais non, il est juste. Oui, oui, mais c'est ça que je voulais déjà hier. Hein. Mais il était déjà comme ça hier? Non, non, non. Ben, oui, alors j'ai eu une vision juste, mais mon col était tordu. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Parce que malgré la fatigue, malgré tout ce que nous avons pu connaître aujourd'hui, nous pouvons compter sur ta grâce et sur ton esprit. Et te demander de nous renouveler et de nous bénir. Car toi, tu ne te fatigues, tu ne te lasses pas. Et tu nous dis que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles. Et puis, ils courent et ne se fatiguent pas. Oh, que nous puissions expérimenter l'authenticité de cette promesse. Tu donnes de la force à celui qui est là. Tu augmentes l'énergie de celui qui n'a pas de vigueur. Alors nous prenons cette parole au mot et nous te demandons que tout ce que nous entendrons, de tout ce qui sera dit, soit pour la bénédiction de nos âmes. Nous voudrions vraiment que ce soir, nous ayons un partage qui t'honore et qui te glorifie et que ce soit ici la manifestation que nous ne sommes pas seulement des gens qui écoutent une parole, mais qui la reçoivent dans leur cœur et qui se laissent corriger par elle, convaincre, instruire, pour être rendu parfait et propre pour toute bonne œuvre. Car si nous disons que nous avons la foi, nous devons être propres pour manifester cette foi par des œuvres, non pas des œuvres mortes, mais des œuvres qui touchent les gens du monde, les incrédules, et qui les amènent à la foi. Car c'est toi qui l'as dit, Seigneur Jésus, il faut que le monde voie vos bonnes œuvres pour qu'il croie, que nous puissions saisir cette vérité et recevoir ta bénédiction dans ton amour. Amen. Alors maintenant, la parole est à vous. Nous avons lu le chapitre 3 de l'épître de Jacques, cette épître catholique, c'est-à-dire universel, et nous en avons fait la lecture ce matin. Plusieurs ont dit qu'ils avaient déjà lu ce texte, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le relire ce soir pour qu'il y ait plus de temps, mais vous allez nous dire ce que le Seigneur vous a montré, comment vous avez peut-être été interpellé. Quel est le grand thème de ce chapitre? La langue. La langue. C'est tout ce qui manque. Alors, je sais qu'il y a une demande que un de nos frères chante un cantique qu'il a lui-même, je crois, composé, si je l'induis. Et alors, je voudrais qu'il se sente tout à fait la liberté ce soir, peut-être, pour commencer, je ne sais pas, de le faire.
Je suis là encore une fois, c'est pas pour la voix, mais c'est une vieille promesse que j'ai faite à Robert. Puis le premier mot, bonjour, que Robert m'a dit en arrivant, il dit, puis ta chanson, vas-tu la chanter? J'aime pas ça, ça m'humilie, j'ai plus de voix, ok, mais c'est pas pour moi personnellement, mais ce que je dois avouer, c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je ne veux plus me plaindre, parce que je suis mis plainte 2 ans, presque 3 ans. Depuis 1 an, je ne veux plus me plaindre. Je suis heureux, complètement. Et puis, je vais vous un peu résumer l'affaire vite. C'est que ma vie avant, dans ce que je travaillais, c'est mon changement devant Dieu. Et puis, ensuite, quand j'ai accouché, j'ai été malade. Seigneur est avec moi. Comme je vous dis, j'ai pas composé là, c'est une vieille aide. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes erreurs d'avoir laissé ma prière de côté. Pardonne-moi, Seigneur, s'il y a longtemps que mon cœur a oublié la façon de prier. Je cherchais tous les jours comment employer ma vie dans les bars et les jeux, faisant mille folies. Mais j'étais malheureux, vraiment pas heureux. Et pourtant, on disait que c'était ça la vie. Mon Dieu, je t'en supplie. Tu sais comment je suis. Maintenant, par Jésus-Christ, c'est vrai, j'ai tout compris. Quand je m'éloigne de toi, je me tourne vers la croix. Mon Dieu va m'aider. Reste avec moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes erreurs d'avoir laissé ma prière de côté. Pardonne-moi, Seigneur, s'il y a longtemps que mon cœur a oublié la façon de prier. Pourtant, il vint un jour, suppliant ton amour, en me sentant faiblir, quand tout me semblait finir. Encore je me suis tourné, j'ai pleuré sur ta croix, mon Dieu, viens m'aider. Reste avec moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes erreurs. Si j'ai péché, c'est d'avoir pas su t'aimer. Mais je t'aime, Jésus. Merci.
La voix à notre frère, et je suis très touchée qu'il ait passé par-dessus cette crainte de ne pas avoir la voix. Le Seigneur lui a donné la voix et nous avons tous bien compris. Et en l'entendant, je pensais à ce Daniel qui lui aussi a fait sa confession et dit aussi
pardonne-moi. Oh, quand on peut dire ça au Seigneur, pardonne-moi. Et il a pardonné. Et il pardonne. Il est appelé le Dieu des pardons. Comme nous voudrions que vous soyez tous conscients des pardons. Qui est-ce qui peut sur la terre pardonner les péchés? Qui est-ce qui a osé dire une fois en pleine foule à un homme paralysé sur un lit de souffrance, alors que quatre hommes l'avaient transporté au pied de Jésus, la première parole que Jésus a dit à cet homme, mon enfant, c'est beau, Jésus, mon enfant, tes péchés se sont pardonnés. Donc le Seigneur nous connaît. Tes péchés se sont pardonnés. Et alors la foule des gens religieux, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qui donc est celui-ci pour oser dire une parole aussi forte? Qui donc peut pardonner sinon Dieu? Mais justement, ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient en présence de Dieu. Alors Jésus est-il dit, connaissant leurs pensées, parce qu'il connaît nos pensées. La parole n'est pas encore sur notre langue que déjà il la connaît tout entière. Il connaît nos pensées. Et connaissant leurs pensées, il leur dit, selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile? De dire, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme qui était complètement paralysé s'est levé instantanément. Il a pris son lit et il est au lieu de tous. C'est vrai qu'il pardonne les péchés. Et il en a donné la preuve que vous pouvez être sûr du pardon. Qu'il y a une guérison. C'est une chose merveilleuse. Bien que le Seigneur nous édifie et nous convainc, ne refusez pas le pardon. Souvenez-vous de Daniel, qui pourtant était un homme si fidèle, mais qui était conscient qu'il avait aussi des fautes. Et quand il prie, il dit, non, Père, on péché, c'est vrai, mais nous aussi, moi aussi, et il les confesse. Et il dit, je t'en supplie, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Si on entendait cette prière dans nos communautés, au lieu de cet esprit de triomphalisme qui passe sur le Québec, où on parle d'un réveil des églises qui se multiplient, si au lieu de cela, on avait cet esprit de prière et d'humiliation à dire, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'âmes, mais quand on voit un peu ce qui se passe dans nos milieux, quand on voit tous les problèmes qu'il y a, toutes les jalousies, toutes les mésententes, toutes les querelles, Seigneur, fais lire ta face sur tous les sanctuaires du Québec qui, au fond, sont assez désolés. Eh bien, on pourrait voir le Seigneur œuvrait en profondeur et faire une œuvre merveilleuse qui glorifierait le Seigneur. Et on n'aurait plus besoin d'entendre parler toujours d'appel d'argent pour faire des missions d'évangélisation. L'évangélisation, elle se ferait parce que les gens seraient attirés par ceux qui se réunissent dans nos églises. Alors que bien souvent, il y a une foule de gens qui ne veulent pas venir dans nos églises à cause de ceux qui s'y trouvent. Parce que le témoignage, il est trop connu. Alors que Dieu nous visite et que nous soyons individuellement renouvelés dans nos témoignages. Et alors nous verrons les âmes venir aussi pour écouter la parole et se donner au Seigneur parce qu'elles auront vu qu'il en valait la peine, qu'il y avait des vies vraiment transformées. Sans ça, on nous dit, me convertis,
pour devenir comme cela, qu'est-ce que ça change? Et le Seigneur nous a dit par l'apôtre Paul, faut pas se rassembler pour devenir pire. Et quelquefois on peut se rassembler pour devenir pire. Eh bien que Dieu nous passe.
Et que maintenant,
quelqu'un d'autre vienne nous dire ce qu'il a reçu dans la méditation de ces trois chapitres de Jacques, spécialement de ce dernier chapitre que nous avons vu.
Quand j'ai lu pour la première fois, c'est le verset 1, ça fait mon affaire. Il n'y a pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Réellement, je me sens plus contente quant à moi. Puis là, je me suis trouvé des raisons pour appuyer moi. Je ne sais plus que j'ai un trac fou quand je vois une vingtaine parler au monde. Oh, je suis certaine que je ne suis pas faite pour enseigner. Puis à part de ça, tu me disais, dans mon travail, j'enseigne, pour ça que tu t'approches d'enseignant. Dans mon travail, j'enseigne, mais c'est pas pareil, c'est mon travail. Et à un moment donné, j'ai compris le Seigneur qui m'avait formé. Ce petit membre, qui a dit de la langue, c'est lui qui me l'a donné. Fait que, quand j'ai à parler, il va me fournir les paroles nécessaires. Que je n'avais pas à m'en faire. Fait que ça a changé un peu mon optique, là, ça me dérangeait un petit peu plus. J'ai commencé à m'impliquer un peu plus. C'est là que je me disais, je regardais. C'est vrai, quand j'ai commencé, moi, s'il y avait eu tout le monde qui avait dit la même chose que moi, s'il n'y avait eu personne, je me suis retrouvée, peut-être aussi évoluée. Fait que, là, je m'implique plus, je m'ouvre plus, puis je me rends compte, sans s'ouvrant, sans s'impliquant, c'est là que je progresse. Puis pour ce qui est de mon travail, c'est ce qu'on a à faire pour Jésus, c'est notre travail. C'est que lorsque que je demande au Seigneur, quand je prie, justement, enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Fais-moi marcher dans tes voies. Montre-moi le chemin que je dois suivre. C'est ce que je t'avais apporté. Merci.
En tout cas, notre peur peut être suivie que le Seigneur va exaucer sa prière. Cette prière qui, je le crois, est le psaume 25. Il m'a fait l'air. Quand on demande des choses comme ça au Seigneur, il lui dit, c'est un livre que ça connaît, c'est bon. Je vais tracer. C'est merveilleux de pouvoir prier en étant fils de l'exaucement. Avant qu'il prie, j'exaucerai pendant qu'il parle, je prie. Et alors on peut déjà lui dire, merci Seigneur de m'avoir répondu, qu'on avance dans la foi, dans la certitude que sa parole se réalisera. Merci de nous avoir exprimé cet autre aspect de notre vie.
La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Naturellement, ce chapitre-là, ça nous amène à s'examiner profondément. Puis on se demande comment la même personne, cette personne qu'on a appelée dans le chapitre 2, là, qui a la foi, puis qui a les œuvres, qui manifeste les œuvres aussi, la vraie foi, cette même personne peut aussi, avec son petit membre, justement, avoir un cœur assez souillé pour proférer souvent des paroles vaines. On dit, je crois que c'est quelque chose de contradictoire, c'est pas parce que ça vient, mais verset 11 le dit, l'eau douce et l'eau amère, ne peut pas jaillir de même chose. Là, ça m'a, à ce moment-là, il faut retourner à la source, il y a sûrement un problème. Alors, on se rend compte que c'est parce qu'on s'abreuve à deux sources différentes. Puis, il faut en éliminer une. Le chapitre 1, il disait laquelle il fallait garder. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'elle. Puis je voudrais ajouter ici que lorsqu'on a une mauvaise pensée mauvaise qui vient du cœur, ça peut être protégé, puis on peut l'effacer tout de suite. Mais lorsqu'on a parlé, il est trop tard, on ne peut pas effacer son côté.
C'est beaucoup plus grave de laisser notre pensée devenir une parole. Parce que les pensées, évidemment, nous savons ce qu'est notre cœur naturel. Il est tortueux, c'est l'Écriture qui le dit. Et Jésus nous a dit tout ce qui peut sortir de notre cœur. Il l'a dit. Alors on le sait et on juge son cœur. Dans la vie quotidienne, voilà, dès le matin peut-être, c'est une pensée d'orgueil. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Nous savons que nous sommes orgueilleux de nature. Eh bien, le Saint-Esprit qui est en moi me signale la chose. Il y a un coup de cloche intérieurement. Je sais que c'est pas bien d'avoir une pensée d'orgueil. Qu'est-ce que je suis? Je suis comme la fleur de l'herbe. On l'a vu, n'est-ce pas? L'herbe sèche, la fleur tombe. S'il va rester, je suis poussière. De quoi puis-je m'enorgueillir? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Nous avons tout reçu. Alors, au lieu d'avoir une pensée d'orgueil, je devrais avoir une pensée d'action, de grâce. Et de bénir le Seigneur dès le matin. Mais voilà, mon cœur est orgueilleux. Alors, s'il ne me juge pas de ces pensées d'orgueil, qu'est-ce qui arrive? Il y a un petit voile qui tombe entre moi et le Seigneur. Oh, je vois encore à travers le petit voile de gaz. Hein? Mais après, la journée continue. Et puis, voilà qu'on est dans le monde, on est pris par le monde. Et puis, j'ai une pensée de convoitise. C'était pas le premier regard, comme on dit quelquefois, n'est-ce pas, qui est péché, mais c'est le second regard. Je parle pas de la radio. Le second regard, c'est que, voilà, on a une pensée de concupiscence, comme regarder quelqu'un, voilà, parce qu'on est de chair, et puis on se retourne. Puis on retourne vers cet objet qu'on a convoité. Et c'est le second regard qui commence à être péché. Alors, on ne peut pas. On a des yeux, on voit et tout est fait pour nous donner des mauvaises pensées. Mais comme on le sait, eh bien, je dois m'en juger et me dire combien j'ai besoin d'un sauveur pour que je puisse encore penser à ça. Seigneur, purifie-moi. Mais si je ne vis pas, qu'est-ce qui arrive? Un second petit voile qui tombe sur le premier. Puis on continue. Et puis, il y a autre chose qui vient. Ce sont peut-être des petites choses, mais si je ne me juge pas quotidiennement, instant après instant, j'arrive à la fin du jour, et tous ces petits voiles de gaz mis l'un sur l'autre, ça finit par faire un gros sac. Et je suis dans le sac le soir. Alors il faut faire la confession générale, et la communion avec le Seigneur n'est plus là. De sorte que
ce que l'apôtre Jean nous donne comme moyen de nous en sortir, c'est de vivre dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, le sang de Jésus-Christ en lui nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans la pleine révélation de ce que Dieu est. Et alors, justement, c'est quand on marche dans la lumière que le péché est révélé. Parce qu'on pourrait dire, mais si vous marchez dans la lumière, il n'y a pas de péché. Mais non, justement, parce que je marche dans la lumière, le péché qui est en moi m'est immédiatement révélé. Alors, je ne dois pas être là à souffrir, à dire, mais voilà, j'ai pas changé, je suis toujours le même. Le Seigneur m'a dit ce que j'étais. Et il m'a dit que je ne pouvais pas m'améliorer. Mais il m'a dit que je pouvais me juger, que je pouvais renoncer à moi. Ce n'est plus moi, là. Le Christ l'a pris, il est mort pour moi. Il est mort avec cette vie que j'ai. Alors je dis, Seigneur, merci. Parce que tu es un vrai sauveur pour moi. J'avais vraiment besoin de toi. Je ne suis pas un pécheur en peinture, mais toi, tu n'es pas un sauveur en peinture. Tu es vraiment mort pour moi. Et alors, marcher dans la lumière, eh bien, s'il n'y avait pas le son de Christ, ça nous conduirait au suicide. Mais quand on marche dans la lumière, on sait que tout péché qui nous est manifesté est automatiquement effacé par le son de Christ. Il y avait un missionnaire en Afrique qui disait que, j'aime pas tellement cette expression parce que j'aime pas comparer le son de Christ à l'essuie-glace, mais il disait que le sang de Christ était comme l'essuie-glace. Hein. Si vous voulez vraiment voir clair pour conduire votre voiture, quand il pleut beaucoup, hein, il faut que l'essuie-glace marche. Sans ça, tout est obstrué. Mais il y a quelque chose de vrai quand même dans cette image. Il faut comprendre que le sang de Christ ne purifie de tout péché. Mais si vous ne confessez pas votre péché, si vous ne vous jugez pas, tôt ou tard, votre péché vous trouvera. Et si consciemment je désobéis sur un point, voilà encore un petit voile de gaz. Et puis quelquefois, et c'est ça qui est dramatique, c'est de voir les vieux chrétiens mourir. Ça c'est triste. Quand on s'est habitué, il y a si longtemps qu'on est converti, on s'est habitué, puis on ne s'est jamais jugé, tout d'un coup, il faut paraître devant Dieu. Et alors, vous voyez des gens qui ont toute la connaissance de Dieu et qui n'ont pas de joie au moment de devoir partir vers le Seigneur, alors que ça serait être un envol, alors qu'on devrait pouvoir partir, passer de crainte, mais on ne s'est pas jugé, on n'a pas demandé pardon à ce frère, on a scandalisé celui-là, celle-là, et puis on a tout gardé cela, puis tout à coup il y a le paquet, et on réalise qu'on va se trouver devant Dieu, dans une lumière fulgurante, que tout va être manifesté. Eh bien, c'est pas drôle. Mais si on s'était jugé quotidiennement depuis notre conversion, eh bien, on serait dans la transparence avec le Seigneur. Il est dit que le Seigneur n'est pas mort pour rien, il est mort pour vos péchés. Et il est mort pour que nous ne péchions plus, pour que nous ne retombions plus dans les mêmes fautes. Bien que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et à reconnaître que c'est vrai, de la même source, il ne peut pas sortir le doux et la mer, c'est qu'il y a une autre source qui corrompt. Il y a un filet qui est venu. La vraie source, voyez-vous, il est dit, il y a un fleuve, psaume 48, dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, les saints lieux de la demeure du Très-Haut. Il y a un fleuve. Et puis, il est dit que chaque croyant, au fond, a son ruisseau, qui vient du fleuve de la grâce. Vous avez votre ruisseau. Et ce ruisseau, dit un autre psaume, il est plein d'eau. Chacun de vous a son ruisseau. Chacun de vous peut bénéficier de la grâce actuelle dont il a besoin. Et il est toujours plein d'eau. Alors abreuvez-vous à ce fleuve de grâce. Mais n'allez pas tourner le dos au Seigneur. C'est ce que dit le prophète Jérémie au chapitre 2. Il dit que Dieu dit, mais mon peuple a fait deux maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. On a tourné le dos à la source des eaux vives. Puis alors, on creuse nos citernes, on se fatigue à creuser, On est des chrétiens fatigués, des chrétiens lassés, et puis plus on creuse, plus on va vers les ténèbres. On ne va pas vers la lumière quand on creuse son puits, on descend dans les ténèbres. Et puis, on se demande, mais est-ce qu'il y aura vraiment de l'eau? Alors, on n'a pas la paix. On est fatigué au lieu d'avoir du repos. On n'a pas la paix au lieu d'avoir la paix du Seigneur. Et puis, on n'a pas la lumière, on va vers les ténèbres, alors que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Puis, plus vous descendez, eh bien, personne ne me contredira. On arrive dans la boue. On arrive dans la boue. Et puis, alors on se suit. Alors que Jésus nous purifie, et puis finalement, ben, on se rend compte que la citerne est crevassée, qu'elle ne retient pas l'eau, et on a travaillé en vain. Et on arrive à la fin de sa vie en disant quoi? Qu'est-ce qu'il y en a qui disent dans leur livre? Si je pouvais, c'est pas une marque d'humilité, ça. C'est la confession du désolé. Parce que c'était tous les jours qu'on devrait marcher avec lui. Et on ne devrait pas dire, si je pouvais recommencer, mais comme saint Paul qui disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai acheté la coupe, j'ai gardé la foi, désormais il a réservé la couronne de vie. Parce qu'il a vécu dans l'obéissance. Il n'a pas toujours vécu dans l'obéissance, mais il y a un moment où il a changé de voie. Et c'est ça la conversion, c'est pas un changement de religion. C'est un changement d'orientation, un changement de vie et un changement de pensée. Mais je suis content que notre sœur ait montré cette gradation. Il y a d'abord la conscience, mais que ça devienne une parole, eh bien, on ne peut pas la retenir, on l'a dit. Et c'est plus grave. Alors il faut aussi confesser nos choses, nos paroles. Péché en pensée, péché en parole, péché en action. Mais il faut nommer nos péchés quand nous les confessons. Il faut les nommer pour en être délivré. Il faut oser dire ce que c'est. Et quand on appelle le péché par son nom, quand on ne dit pas, oh, mon péché c'est un péché mignon, mais qu'on dit, c'est grave, eh bien, le Seigneur nous libère et nous libère. Appelez vos péchés par vos noms et vous aurez des délivrances. Quelqu'un d'autre a à
nous partager quelque chose. Profitez de cette occasion.
Émilie, quoi? Ouais.
J'ai vu passer que c'était pour les petits, mais. Là, je comprends, c'est pour moi. Mais là, ce qui m'avait parlé, c'était concernant la langue. Et puis. Dans nos milieux évangéliques, il me semble que une chose importante, c'est de veiller sur nos frères, et puis de s'édifier les uns les autres, s'exhorter, puis tout ça. Et puis, ça m'a rappelé aussi que des fois, on manque de sagesse, comme il dit, pacifique, modérée, conciliante. Et puis, en pensant rendre service, et puis veiller sur nos frères, des gens, en tout cas, que dans mon entourage ou moi-même, on a facilement tendance à tomber dans la critique. Et puis, on commence à, comme des fois après l'assemblée, dans le taux, on commence à tout réviser l'affaire, puis on discute, et puis on analyse certaines personnes. Ouais, je pense que c'est très facile, puis ça. Et puis, que ça peut justement être un mal. Et puis, c'est peut-être plus propre à ceux qui justement, veulent bien agir, là, puis chercher à trouver le meilleur pour les autres qui ont plus tendance à tomber dans la critique. Et puis, il me semble, même en rencontrant ceux qui semblaient le plus spirituels, c'est ceux qui semblaient trouver le plus de bébés chez les autres, et puis plus facilement porter à en parler. Et puis, en pensant sur ça, un matin, on avait pensé parler de David, et puis Saül, et puis le gars qui était venu trouver David, disant que Saül était mort. Et puis, de voir la réaction de David, c'était un petit peu inhabituel. De voir que lui, s'était pas réjoui de la mort de son ennemi. Et puis, la façon dont lui a parlé, dont lui a utilisé sa langue, ça me semblait être un bon exemple. Je veux juste le lire. c'est dans 2 Samuel 1, 17, c'est dit, David entonna cette complainte sur Saül et sur son fils Jonathan, et il ordonna de l'enseigner au fils de Juda. Ok, c'est quoi? Là, ça continue. Ton élite Israël a été transpercée sur tes hauts lieux. Comment des héros sont-ils tombés? Et puis là, j'en passe un peu. Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que des aigles. Ils étaient plus forts que des lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait une parure d'or sur vos habits. Fait que de voir que David, de son ennemi lui-même, qui lui avait donné tant de misère, que lui-même n'en parlait pas en mal, ça me semblait un bon exemple de, plutôt que de certains frères ou sœurs qui auraient des difficultés, de ne pas les critiquer, mais de rechercher au moins le bien qu'ils avaient, des fois un petit peu de bien, mais au moins de chercher à encourager ça, puis à relever ça, parce que dans le fond, c'est des frères et des sœurs. Et puis, que là, ça me ramenait aussi au texte quand il dit que la foi agissait par des œuvres. Et puis, c'était ça justement, la justice, là, agir justement. Ça se dit aussi à ce niveau-là. C'est ça, dans le sens-là, la foi sans les œuvres est morte. Fait que c'est ça que ça m'a fait penser.
Merci, Jocelyn. Et il y a quelque chose de très frappant dans ce cantique funèbre que David a composé le jour où il a appris que son ennemi mortel était mort. Il ne s'est pas réjoui, mais il a pleuré et il a manifesté durant sa vie que jamais lui n'aurait porté la main sur Saül. Et dans ce que Jocelyn vient de lire, pour appuyer ce qu'il a dit, il ajoute au sujet de cette mort de son ennemi, qui était au fond le roi d'Israël, il dit, ne le racontez pas, verset 20, ne l'annoncez point dans Gath. Gath, c'est la Philistie. N'en publiez point la nouvelle dans le pays de Tapsalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. Hein, votre ennemi est mort. Mais il ne faut pas triompher. Il ne faut pas raconter cette chose-là. Vous entendez dire quelque chose de quelqu'un. C'est peut-être vrai. La mort de Saül, c'était vrai. Mais il ne faut pas ébruiter la chose. Ne le racontez pas dans Gath. C'est un verset qui m'a toujours impressionné dès ma jeunesse. Il y a des choses qu'on ne doit pas répéter. Parce qu'on ne fait pas de bien. On n'édifie pas. Il y a des choses que l'on sait, mais qu'on doit garder, rester cachées. Ça vous fait penser à Noé, par exemple. Hein? Il a eu une défaillance. Et puis c'est un de ses fils qui est entré dans la tente quand le pauvre Noé, qui n'avait pas l'habitude de boire du vin, il avait planté une vigne, puis voilà qu'il s'est enivré. Puis il a oublié de se couvrir, peut-être qu'il faisait chaud. Et on l'a trouvé nu dans sa tente. Et qu'est-ce que Canaan a fait? Ou Cam? Il est allé le raconter à ses frères. Tout de suite. Venez voir le père. On va parler des pères.
C'est beau ça. Ils ont caché la nudité de leur père au lieu d'aller rire de la faute de leur père. Et c'est cela qui pourrait nous caractériser, nous les chrétiens. Je dis aussi pour moi-même. Nous avons besoin de nous exhorter les uns les autres. Il y a des choses qui ne sont pas rapportées. Ça n'existe pas. L'amour court une multitude. Le péché. Quelqu'un d'autre?
partage sur un verset, le verset 14, où on mentionne, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Je suis un peu accroché sur le mot « zèle », et puis le mot « zèle » ici est mis avec un sentiment qui est de l'amertume. Et habituellement, ces deux mots-là, ça ne va pas ensemble. Quelqu'un qui est zélé, habituellement, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, quelqu'un qui est capable de faire les choses d'une façon positive, qui est capable d'entraîner les autres gens dans son sillon. Et quand on fait quelque chose avec un zèle amer, on a de l'amertume, ça donne comme résultat ce qui est marqué au verset 16. On dit ici, car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Habituellement, quand on est zélé pour une chose, vous avez déjà vu, peut-être, dans votre travail, dans vos occupations, des gens qui sont zélés pour leur travail ou leurs activités. Ce sont des gens, habituellement, qui servent de modèle, parce qu'ils font ça entièrement. Ils font ça dans la joie, habituellement. Mais là, ici, on parle de quelqu'un qui fait quelque chose avec un zèle amer, qui garde une amertume. Donc, c'est quelqu'un qui agit, mais qui garde des pensées amères dans son cœur. Et par rapport aux premiers 12 versets du chapitre 3, ça met quelque chose en évidence. Trop parler, c'est pas bon, mais pas parler non plus, puis garder l'amertume, c'est pas bon non plus aussi. Donc, trop, c'est comme pas assez dans ce sens-là. Ça se peut qu'il y a des gens qui parlent trop, mais ça se peut aussi qu'il y a des gens qui parlent pas assez. Des gens qui laissent développer en eux de l'amertume et de la contrariété, et on se monte, en fait, des scénarios, on se fait des pressions intérieures, et quand on arrive pour avoir des contacts avec les gens, c'est cette amertume-là qui se manifeste. Et en lisant ça, ça m'a fait penser à un prophète, le prophète Jonas, qui est un prophète, moi, que je considère qui a eu ce genre de zèle avec de l'amertume. Vous savez un peu l'histoire de Jonas, quand on lui a demandé d'aller annoncer à Nénive que si elle ne se repentait pas, elle allait subir le jugement de Dieu. Alors Jonas s'est enfui, il n'a pas voulu faire ça. Sauf que le Seigneur l'a ramené, vous savez comment, il a passé par plusieurs déboires, mais il est revenu, il est allé quand même annoncer à Nénive le jugement, et il est arrivé ce qui devait arriver, le peuple s'est repenti. Et Jonas a eu un zèle amer par ça. Il voulait garder un peu l'exclusivité du salut pour le peuple juif, mais ça c'est autre chose. Mais le chapitre sur Jonas s'achève, c'est lui qui était malheureux. Malheureux au point où il voulait mourir, justement, parce qu'il avait gardé en lui un zèle amer. Alors, il a fait ce que le Seigneur lui a demandé, mais il l'a fait avec amertume. Alors, au lieu de soutirer des grâces de ça, il en a soutiré une espèce de malédiction pour lui-même. Et moi, du zèle amer, j'appelle ça quelqu'un qui bougonne, tu sais, en québécois, là, une bougonneuse nature, puis je pense que ça nous arrive tous. Moi, ça m'arrive, en tout cas, de bougonner à l'occasion. Je fais pareil les choses, mais je le fais en bougonnant. Et quand on fait ça, je pense qu'on se prive des fruits d'une action qu'on pourrait faire avec zèle. Au lieu de recevoir des bénédictions, on se prive de ces bénédictions-là et on est malheureux, comme le prophète Jonas l'a été dans son activité à la fin du chapitre. Et moi, devoir associer ces deux mots-là, avoir un zèle amer, ça m'a frappé quand j'ai vu ça. Ça m'a frappé parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Ou on est zélé, ou on a de l'amertume. Mais quand on a les deux, c'est pas mieux. Okay? Donc, je pense que quand on a... Moi, je tire comme conclusion, pour terminer, qu'il vaut mieux, je pense, s'abstenir d'exécuter quelque chose quand on a un zèle amer et de parler de son amertume, je ne sais pas, moi, soit à sa femme ou à ses amis, de se débarrasser de cette amertume-là avant d'agir. Parce que si on agit avec un zèle amer, ça va donner, comme je le répète, ce qui est au verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Habituellement, quand on fait les choses avec zèle, pour faire des bonnes actions. Quand on fait les choses avec un zèle amer, avec de l'amertume dans le cœur, il y a des mauvaises actions. Alors, le résultat est désastreux.
Comme nous le disions, c'est vraiment le zèle chrétien, le zèle qui doit nous caractériser, c'est d'avoir les pieds chaussés du zèle que donne l'Évangile de Dieu. Un zèle qui marche dans la paix, qui va avec la paix. zélé pour Dieu. Et un zèle qui est le fruit d'une connaissance. Paul dit dans le chapitre 10 des Romains, parlant des Juifs, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Et il y a un zèle qui est dépourvu de connaissance. Ce n'est pas ce zèle-là que le Seigneur vous dit. Comme dans l'église de Laodicée, qui s'est assiédie, bien, il lui dit, aie du zèle, mais c'est pas un zèle amer. Aie du zèle, mais un zèle qui conduit à la repentance. Aie du zèle et repente-toi. Et alors, de tiède, on peut devenir bouillant. Et pour le Seigneur, et c'est la grâce que nous demandons pour chacun de nous. Et si nous sommes bouillants pour lui, eh bien, le Seigneur nous prendra avec lui et nous donnera une place sur son trône, comme on le disait aux enfants. Ce n'est pas à nous qui choisissons ou qui pouvons dire au Seigneur, je voudrais être à ta droite ou à ta gauche, mais il nous donnera une place sur son trône, la place que Dieu nous a préparée. Quelqu'un d'autre?
Je voulais juste dire que David a traduit une jalousie amère.
Je pense que c'est plus juste encore. Mais il y a du zèle amer. Mais le zèle amer va avec la jalousie. Et toute espèce de mauvaise action. Quelqu'un encore une parole à nous dire?
Simplement sur un verset qui est la modernité, verset 17, sous le thème de la sagesse d'en haut. Je crois que c'est parti sur un thème difficile. Et puis, j'ai tout simplement pris les références qui étaient liées à ce texte. En lisant les différentes références, à la fin de tout ça, je me dis que j'ai pas grand chose de plus. Et j'ai eu à cœur de relire le psaume 119. Ça m'est venu comme ça, et pourtant, c'est un psaume qui fait encore plus de versets que l'ensemble des cinq chapitres de Jacques, le plus grand psaume, si vous le connaissez, le psaume 119. Et le grand thème, c'est David qui dit toujours à Dieu, enseigne-moi dans tes statuts, il y a beaucoup de choses. Alors, simplement, ce que je voulais faire avec vous, c'est les quelques pensées que j'ai pu retenir et qui englobaient un peu ces différentes journées de cœur, ce qui m'a touché dans mon cœur. Donc, je lis simplement quelques passages, je ne vais pas le lire entièrement parce que ce sera un peu long. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Puisse mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je serre ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'orfin. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Tes compassions sont grandes ou éternelles. Rends-moi la vie selon tes jugements. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Et là, j'ai pas retrouvé le verset, je sais que tu vas le connaître. Dans ce psaume, un passage que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'intelligence, il y a cette notion d'intelligence qui va éclairer les simples. Et dans ce psaume, je n'ai pas retrouvé ça, j'ai trouvé très très beau parce qu'on en a aussi beaucoup parlé. Voilà, c'est tout.
C'est entrer de tes paroles illumines, donnant de l'intelligence aux saints. Mais il faut être de tes saints. Jésus a parlé pour les saints. Et je crois qu'on s'est trop souvent éloigné de cette simplicité quant au Christ, comme le dit l'apôtre. Quelqu'un d'autre voudrait saisir encore cette occasion. On n'en aura plus beaucoup. Et je ne voudrais pas que vous puissiez après vous sentir frustré en disant, bien voilà, on ne m'a pas donné l'occasion de parler, d'exprimer ce que j'ai éprouvé.
D'un autre côté, nous ne sommes pas de ceux qui forcent les gens. Nous aimons trop les âmes et nous les respectons. Peut-être que vous aurez encore demain, après le chapitre 4, une occasion, car si j'ai bien compris, donc demain nous aurons le chapitre 4 à étudier, et puis ensuite, il restera vendredi matin pour le chapitre 5, mais demain soir, si vous êtes d'accord, nous procéderons encore de la même manière et nous aurons un moment de partage après avoir lu ce chapitre 4 le matin, l'avoir médité, nous pourrons partager le soir. Mais dans la dernière rencontre, habituellement, c'est consacré au témoignage de ce qu'a été pour vous, alors d'une façon générale, ce camp. Si vous pensez que c'est une œuvre utile qui devrait se poursuivre, que votre assemblée devrait poursuivre, le Seigneur peut susciter les hommes, les femmes, pour un tel travail. Nous ne sommes pas, nous, indispensables. Et, comme je vous le disais, nous pensons toujours que c'est notre dernier camp. Du reste, il faut des fois aussi savoir partager. En acceptant le camp, la matière ici, depuis 3 ou 4 ans, je n'ai plus pu aller à d'autres camps, et heureusement qu'on me pardonne. Mais un homme qui s'appelle aussi Gaston trouve que je pourrais bien laisser Cedar Lodge et aller du côté de Jolie Baie, où pendant des années j'ai enseigné les camps. Mais on ne peut pas être à deux places à la fois. Alors vous voyez, il faut prier pour que je sache ce que je dois faire. On va chanter un cantique. Personne n'est frustré. Puisque notre thème du soir et les responsabilités et les privilèges d'un père chrétien, mais un père chrétien, il s'inspire de l'Écriture sainte, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, puisqu'il est dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous instruire, nous corriger, nous convaincre, et rendre parfait l'homme et la femme de Dieu pour l'accomplissement de toute bonne œuvre. Et il nous est dit aussi que tout ce qui nous est raconté dans l'Écriture elle a été pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et comme nous l'avons déjà dit, la fin des temps, c'est ce qu'on appelle dans le monde les temps modernes. De sorte que l'Écriture nous parle de ces temps modernes. Alors, après la vie d'Abraham, qui nous a donné des enseignements, comme aussi celle de Job, un père responsable, comme aussi celle de Jacob et de Josué, j'ai pensé vous dire quelques mots sur des pères qui avaient une fonction élevée, je l'ai dit, Élie le sacrificateur, Samuel le prophète et David le roi, le doux psalmiste d'Israël, celui qui a composé tant de psaumes qui sont tellement édifiants. Eh bien, l'un de ces hommes, c'était le sacrificateur. Ce qui lui est reproché, c'est qu'il honorait ses enfants plus que Dieu. Le second, c'est qu'il a établi, Samuel, il a établi de son chef ses enfants comme juge en Israël. Comme lui avait été juge, il a pensé qu'il pouvait lui-même établir ses enfants comme juge en Israël. Et ses enfants ne marchaient pas dans ses traces. La foi n'est pas héréditaire. Et c'était une chose bien pénible, parce que le peuple d'Israël lui a fait ce reproche, lui a dit à Samuel, tu sais très bien que tes enfants ne marchent pas dans tes traces, et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Un roi. Établis un roi. Tes enfants, nous n'en voulons pas. Ils ne marchent pas dans tes traces. Établis sur nous un roi. Et puis, alors, le troisième, c'était donc le roi David, et lui, ce qui lui est reproché, c'est qu'il ne disciplinait pas ses enfants. C'était un moderne. Il disait que les enfants, il fallait qu'ils puissent s'épanouir. Alors on ne les disciplinait pas, et on ne les reprenait pas au temps où il aurait fallu les reprendre. Et ça a donné des catastrophes dans la vie familiale de David. Mais nous verrons quelle était la faiblesse de David. Il avait une passion qui s'est accrue chez l'un de ses fils. C'était quoi? Qu'est-ce que David aimait beaucoup? Les femmes. Oh, il n'en a pas eu 700 et 300 concubines comme Salomon, mais lui, il avait aussi cette tendance. Et ça lui a joui des tout. On a dit que le mot passion, n'est-ce pas, avait deux significations. La passion, eh bien, c'est un désir très fort, une convoitise, mais en même temps, la passion, ça a quel sens? La souffrance. Passion, ça a les deux sens, convoitise, hein, et puis en même temps, souffrance. Vous parlez des souffrances de la passion, vous parlez de la passion du Christ. Ça peut être compris comme souffrance, mais ça peut être aussi compris comme convoitise. Fuis les passions de la jeunesse. Alors, il y a les deux sens. Mais revenons à notre thème, les responsabilités et les privilèges d'un père. Il y avait donc Élie, le vieux sacrificateur. Vous prenez dans 1 Samuel, chapitre 2, et vous apprendrez qu'Élie était donc ce sacrificateur qui a parlé à Anne et qui l'a mal jugée parce qu'il croyait qu'elle était ivre, mais qui a discerné finalement qu'elle avait une grande souffrance dans l'âme et qu'elle répandait son cœur devant le Seigneur et qui a été saisi par l'Esprit pour lui dire, eh bien, que le Seigneur te bénisse et qu'il soit exaucé. Et Anne avait été exaucée elle a pris cette parole du vieux sacrificateur comme une parole de Dieu, et elle a changé de visage, elle s'est mise à manger, elle qui ne mangeait plus. Mais nous lisons au chapitre 2 du premier livre de Samuel que les fils d'Élie, verset 12, donc le sacrificateur, le représentant de Dieu auprès des hommes, étaient des hommes pervers. Est-ce que vous vous imaginez ça? Les fils d'un sacrificateur, ils étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Hein? Mais ils travaillaient au sanctuaire, et c'était des hommes pervers. C'est tout à fait ce qu'il est dit dans l'Épître de Jacques. Des gens qui prétendent avoir la foi, qui sont dans le ministère, mais qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas régénérés, ce sont des fonctionnaires, et même des mauvais fonctionnaires. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs, parce qu'ils étaient eux aussi sacrificateurs, fils de sacrificateurs, on leur avait donné le titre de sacrificateurs. Eh bien, voilà comme ils agissaient vis-à-vis du peuple. Lorsque quelqu'un offre un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo pour offrir un sacrifice. Au fond, ils se servaient au lieu de servir. Voilà une foule d'hommes qui s'appellent serviteurs de Dieu et qui n'ont pas compris que servir Dieu, c'est pas se servir premièrement, mais c'est le servir, comme on a pu le dire à nos petits-enfants, au sujet de l'enseignement même du Christ. Verset 15. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le sacrificateur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je le prends de force. Voilà des serviteurs de Dieu. Verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables, alors notez bien ce verset, hein, parce qu'il est capital, ces jeunes gens se rendaient coupables devant qui? Devant l'Éternel, d'un péché mignon. D'un très grand péché, parce qu'il méprisait quoi? Les offrandes de l'Éternel. Puis alors il est dit que Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Ça c'est l'histoire de Samuel. Mais verset 22, Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissait à l'égard de tous Israël. Il était fort âgé quand il apprend vraiment tout ce que ses fils faisaient. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? À ce moment où il est fort âgé, on a vu hier un Josué qui avait 110 ans, c'est déjà pas mal âgé, hein, et qui pouvait encore parler au nom de sa maison, à 110 ans. Mais là, vous avez un homme fort âgé qui dit à ses fils, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. » Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leurs désespère et ce qui me bouleverse, et j'aimerais que ça vous bouleverse aussi, car l'Éternel voulait les faire mourir. On ne se moque pas de Dieu. Il arrive un moment où Dieu vous retranchera. Si nous ne sommes pas un témoignage, eh bien, nous empêchons par notre propre vie des âmes de se convertir. Nous sommes de trop, nous sommes une pierre d'achoppement, et Dieu peut aller jusqu'à nous retrancher. Et ces jeunes gens qui n'ont pas été éduqués dans leur première jeunesse et qui sont arrivés à devenir dans l'âge où ils étaient quand Samuel était encore tout jeune, eh bien, ces gens ont été retranchés, nous l'apprenons plus loin. Ils sont morts dans une terrible bataille. Ils sont morts le même jour et l'arche de l'Éternel a été prise. Et au verset 26, il est dit, et le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Et alors, on peut penser que le vieil Élie, alors, pour le petit Samuel, il avait quand même appris certaines leçons. Il a vu les résultats de ses manquements dans la première jeunesse de ses enfants. Il n'a pas pris ses responsabilités quand les enfants étaient petits et quand ils sont devenus grands, eh bien, ce vieux père, on ne l'a pas écouté. Alors, le vieil Élie, et je pense qu'Anne avait compris cela, elle a quand même donné à ce vieil Élie le soin d'éduquer le petit Samuel. Mais ce petit Samuel avait eu l'enseignement de sa mère pendant quelles années? Les années où elle l'allaitait. Et c'est cela qui a gardé Samuel lui-même de tomber, lui aussi, dans ses excès et de suivre le mauvais exemple qu'il avait tous les jours devant les yeux. Parce qu'un enfant qui voit des sacrificateurs qui couchent avec les femmes, c'était public, tout le monde le savait. Et Samuel a dû voir cela. Et il a dû en être profondément scandalisé, mais il n'a pas suivi cet exemple. Il est resté fidèle et le Seigneur l'a béni. Mais Élie n'a pas été l'homme qui a suivi les préceptes du Seigneur. Et voyez-vous, c'est pas quand on est vieux que l'on doit commencer de reprendre nos enfants. Vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants quand ils sont petits. Je sais très bien, vous dites, quand nos enfants sont tout petits, nous avons trop, nous les pères, on a trop de travail. On doit gagner la vie. Et on n'a pas le temps de s'occuper de nos enfants, c'est la mère qui doit faire ça. Bien oui, nous l'avons souligné, la tâche de la mère, souvenez-vous de cela, maman, c'est dans les toutes jeunes années que vous avez à inculquer les principes bibliques à vos enfants, à ces tout petits. Vous pouvez peut-être penser qu'ils ne doivent pas comprendre beaucoup de ce que je leur dis, mais ça ne fait rien, je sais qu'ils s'en souviendront. Je sais qu'ils auront ces paroles finalement dans leur cœur, parce qu'on ne sème pas en vain dans les cœurs des enfants. Et vous savez, on est souvent édifié par les enfants. Et voyez-vous, j'aimerais vous lire et vous redire, de relire ces proverbes où il est parlé de la manière dont on doit éduquer les enfants. Je vous cite quelques versets pour ne pas allonger. On a eu tout un camp ici, Mahanaïm, sur le livre des proverbes. Vous pouvez encore avoir les cassettes. On a étudié chaque proverbe de ces 31 chapitres. Au chapitre 13, par exemple, je vous cite le verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. quand? Quand il a 25-30 ans? C'est là que vous allez le corriger? Non, c'est quand il est petit. Et puis, pas le corriger dans la colère, mais le corriger après lui avoir parlé. Mais je sais très bien que c'est contre les conceptions modernes, mais c'est autrement. Mais voilà ce que dit la parole. Celui qui ménage la verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Prenez maintenant le chapitre 22 du même livre pour vous citer seulement quelques versets. Verset 15. La folie est attachée au cœur du vieillard, au cœur de l'enfant. C'est pas de l'homme mûr, c'est de l'enfant. Et la verge de la correction l'éloignera de lui. Mais je dis pas, eh bien, il faut être des bourreaux d'enfants et puis il faut battre vos enfants. C'est pas cela. Mais je vous dis que nous devons exercer la discipline. Et s'ils ne veulent pas comprendre, eh bien, il faut avoir assez d'amour pour oser les châtier. Mais les châtier, non dans la colère, mais après leur avoir parlé. Et j'ai vu bien des enfants qui ont admis que pour se souvenir de ne plus faire une certaine chose, qu'ils reçoivent une fessée. Là, au moins, vous ne cassez rien. Parce que si vous donnez simplement des grandes calottes, là, vous risquez de les blesser. Tandis que si vous y prenez le temps, et sans colère, mais en lui disant, ben voilà, tu mérites d'être puni, eh bien, il y a une place, là où le dos change de nom, où vous pouvez frapper avec mesure. Il n'y a pas besoin de prendre un instrument contondant pour battre votre enfant. C'est pas cela. Et on n'est pas des batteurs d'enfants. Mais quelquefois, quand on ne comprend pas par la tête, on comprend par ailleurs. Mais ça dépend des enfants. Il vous faut pas avoir les mêmes méthodes. Il y a des enfants, eh bien, ça leur fait du bien. Je me souviens toujours, je l'ai raconté peut-être une fois ici, au travers des camps, c'était à Haïfa, une femme de Dieu que j'aime beaucoup, disait que son enfant était rentré de l'école, et puis qu'il s'était lui-même déculotté, puis il avait été se mettre sur le divan, puis il dit, « Maman, je voudrais que tu me donnes la fessée. » Je lui dis, « Mais pourquoi ?»« Mais j'étais tellement sot à l'école, et j'aurais besoin de m'en souvenir. » Eh bien, cet homme, il habite Toronto maintenant, et c'est un homme de Dieu remarquable. Mais il avait compris qu'il y a des choses, et il fallait qu'il s'en souvienne, mais ça fait peut-être un peu mal. Eh bien, cette mère racontait cette histoire, et c'est une femme tout à fait remarquable, comme son mari aussi, et qui est un serviteur de Dieu, mais déjà bien âgé. Ils ont pris au sérieux l'enseignement du livre des Proverbes. Je peux encore vous citer, il y en aurait d'autres, mais au Proverbe 29, qui nous montre que peut-être la verge est parfois nécessaire. Verset 15 du chapitre 29, la verge et la correction donnent la sagesse. Oui, vous pouvez demander la sagesse. Mais pour votre enfant, eh bien, quelquefois, c'est la verge et la correction qui donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il fait honte à sa mère. L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Et nous pourrions multiplier les versets. Eh bien, Anne, je pense qu'elle a su éduquer Samuel. Samuel était un enfant de la chair comme les autres, mais quand il était petit, s'il a désobéi, eh bien, il a été corrigé. Et cela, ça a porté du fruit. Il est dit, même un enfant, eh bien, montre déjà ce qu'il sera plus tard. Nous avons cela aussi dans un texte des Proverbes. verset, chapitre 20, oui, le verset 11. L'enfant laisse déjà voir, par ses actions, si sa conduite sera pure et droite. Et c'est vrai. Mais alors, si vous appliquez la discipline à vos enfants, parce que vous êtes des vrais pères, qui comprenez vos responsabilités, vous saurez aussi les encourager. Quand ils ont fait quelque chose de bien, vous savez aussi les récompenser. Et le leur dire, et leur manifester tout votre amour. Je sais que ce que je dis ne correspond pas aux théories modernes qui consistent justement à laisser les enfants s'épanouir selon leur propre tempérament. Eh bien, cela, ça ne peut vous amener qu'au chagrin et à des peines vraiment douloureuses. Prenez garde à ce que la parole vous dit, vous ne le regretterez jamais. Mais ne châtiez pas vos enfants dans la colère. Prenez le temps de leur parler. Alors je passe maintenant, je laisse le vieil Élie qui est mort en apprenant la mort de ses enfants et que l'arche avait été prise. Il a un malaise et il tombe en arrière et il s'énuque. Prenons maintenant Samuel. Alors Samuel, il a eu l'exemple des fils d'Élie, il a vu leur fin, mais il ne semble pas avoir appris, malgré tout ce qu'il a vu, ils ne semblent pas avoir appris comment on devait se conduire avec nos enfants. Il a vu la famille d'Élie. Et puis, nous, nous avons des exemples, mais ça ne nous impressionne pas. Alors, lorsque Samuel fut devenu vieux, je vous cite 1 Samuel, chapitre 8, un texte que j'ai lu la dernière fois que j'étais en Israël, à Beersheba, avec les sœurs, les collaboratrices de mon ami le père Jean Roger, qui est auprès du Seigneur maintenant. Eh bien oui, lorsque Samuel devint vieux, voyez verset 1er du chapitre 8, il établit ses fils juges sur Israël. Que Samuel ait été établi juge, il l'avait été par Dieu. Mais c'est pas parce que moi j'ai été établi par Dieu, été appelé par Dieu, que nécessairement mes enfants, eh bien, je peux les établir. Non, ce n'est pas mon affaire. Et je dois prêcher à mes enfants que c'est pas parce que je cherche d'être un homme pieux que eux seront nécessairement pieux. Et je dois dire à mes enfants, c'est pas parce que vous êtes nés d'un père et d'une mère qui ont prié pour vous avant même votre naissance, que vous serez sauvés. Vous ne serez sauvés que si vous acceptez personnellement le Seigneur Jésus. Et c'est cela qu'un père doit enseigner à ses enfants. Il ne faut pas que, comme on me l'a dit une fois dans un temps, il y a 40 ans, en Suisse, je voyais un jeune garçon de 15 ans qui disait des grossièretés, comme vous dites au Québec, il sacrait, mais avec d'autres mots que hostie, sacristie, calice et tabernacle, mais il disait d'autres mots, hein, les mots en France sont différents. Et je l'ai repris et je lui ai parlé, je lui ai dit, mais tu n'as pas peur de dire des choses comme ça devant Dieu? Qu'en est-il de ton âme? Il dit, oh mais mon père, c'est le frère ancien de l'assemblée. Ben j'ai dit, ben, et alors? Ben oui, ben je suis sauvé. J'ai dit, tu sais que des fils de frères anciens, l'enfer en est pavé. Alors évidemment, il était écœuré. Mais ça l'a secoué. Mais c'est pas parce que ton papa est frère ancien que toi tu peux te laisser aller à dire n'importe quoi. Tu blesses le Seigneur. Et tu dois passer, toi aussi, par la conversion. C'est pas parce que tu vas user le fond de tes culottes sur les bancs de l'Assemblée que tu vas être sauvé. Parce qu'il y en a un qui me disait, oh, moi, je suis bien obligé d'aller à l'Assemblée, au Vignon, parce que mon père ne me laisserait pas faire des études sans ça. Mais quand j'aurai fini, ben j'abandonnerai tout ça. Et puis quand je m'en vais à une réunion, il disait, je regarde l'heure, puis je dis, dans une heure, ça ira mieux. Alors, il regarde son horloge et il dit, je fais un match de foot, de football, hein, pendant toute la réunion, et puis il pense à toute autre chose, mais il est là, physiquement il est là. Notre petit vient avec nous aux réunions. Que c'est beau. Hein? Puis vous êtes illusionné par cela. C'est pas cela. Ayez les yeux ouverts, père et mère. Mais je parle maintenant surtout de la responsabilité des pères qui ne doivent pas démissionner. Dieu vous a donné des enfants. Bien sûr, vous êtes occupé par le travail, mais vous ne devez pas dire c'est la mère qui doit s'en occuper. Vous avez une responsabilité et votre enfant doit savoir qu'avec papa, ça ne baste pas et qu'il soutient la mère dans ce qu'elle dit et dans ses décisions. Vous êtes d'accord dans le foyer pour élever vos enfants pour le Seigneur. Alors voyez, son fils, verset 2, chapitre 8, premier-né se nommait Joël, et le second Abija, et ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. On a un bon père et on ne marche pas sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, ce que faisaient les fils du vieil Élie, recevaient des présents et violaient la justice. Voilà ce qu'ils faisaient. Alors il est dit que tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Vous voyez qu'on s'attend à ce que les enfants de serviteurs de Dieu marchent sur les traces de leur père. Tes fils ne marchent point sur tes traces. Établit pour nous un roi pour nous juger, comme il y a pour toutes les nations. Alors c'était une grande peine pour Samuel, mais là vous voyez les lacunes de Samuel. Pourtant, il y a quand même un rayon de grâce. Et je vous le dirai parce qu'il me semble que je dois vous le dire. Vous n'aimez pas lire les généalogies. Mais moi j'aime les généalogies. Parce que les généalogies de la Bible, elles nous révèlent des choses merveilleuses. Et vous voyez qu'un de ses fils, qui ne marchait pas dans les voies de son père, il s'appelait comment ? Joël. Alors prenez 1 Chronique, chapitre 6. 1 Chronique, chapitre 6. David a établi pour la direction du chant, depuis le verset 31, dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos, il a établi plusieurs personnes. Ils remplirent des fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kéatites, Héman, le chantre, fils de qui? Fils de Joël. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Et Joël était fils de qui? De Samuel. Donc vous voyez, on passe sur ces textes et on y découvre, quand on s'y arrête, que malgré que Joël, fils de Samuel, n'a pas bien marché, il a eu un fils qui s'appelait Héman. Donc le petit-fils de Samuel, lui, a bien marché. Donc Dieu, dans sa grâce, a accompli ce qu'il avait dit. Il bénit jusqu'à 1000 générations. Héman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, et puis vous pouvez aller plus loin. Mais prenez encore un autre passage, toujours dans le livre des Chroniques, 1 Chronique 25, si vous voulez, verset 1. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Aza, qui a écrit plusieurs psaumes, d'Aimant, alors vous retrouvez Aimant, qui est fils de qui? De Joël, et de Jestudun, qui prophétisait en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Aza, puis il y a les noms qui sont donnés. Hein. De Jestudun, des fils de Jestudun, et les noms sont donnés. Il prophétisait avec la harpe pour louer l'Éternel. Et verset 4, d'Aimant, les fils d'Aimant. Et combien est-ce qu'il en a eu de fils? Un vrai Québécois. 14. Et puis combien de filles? 3. D'Aimant, et je ne vais pas vous lire tous les noms, les fils d'Aimant, Butija, Matania, etc. Puis verset 5, tous les fils d'Aimant qui étaient voyants du roi. Donc le petit-fils de Samuel était voyant du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Aimant 14 fils et 3 filles. Tous ceux-là étaient sous la direction de leur mère, de leur père, hein. Donc on peut encore être sous la direction des pères. Tous ceux-là, c'est beau, hein. Combien ça faisait d'enfants? 14 et 3? 17. 17 pouvaient être sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avaient des cymbales, des luths, des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asa, Jestudun et Aimant recevaient les ordres du roi. Et donc, ils travaillaient ensemble. Ils étaient plusieurs ensemble, des familles ensemble, et qui servaient le Seigneur. Voilà la grâce de Dieu qui, malgré tout, se manifeste dans la vie des descendants de Samuel. Mais Joël, le fils de Samuel, ne marchait pas dans les voies de son père, mais les enfants de Joël, Aimant, et les petits-enfants ont été fidèles à Dieu. Voilà qui peut nous encourager. Et alors, en finale, le roi David. Quand on devenait roi en Israël, on devait, selon la loi de Moïse, copier personnellement la loi du Deutéronome au chapitre 17e. Je prends simplement ce verset du chapitre 17e au verset 14e. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu auras établi ta demeure et que tu diras je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Alors David avait été choisi par l'Éternel, mais tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de quoi? De femmes. Afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne se fasse pas un grand amas d'argent et d'or. Eh bien, David savait cela. Et alors, quand nous étudions la vie de David, je vais vous demander de la méditer. La première femme qu'il a eue, comment est-ce qu'il l'a eue? Il l'a achetée en tuant combien d'hommes? 200. Mais qu'est-ce que Saül lui avait demandé? 100. 100 prépuces de Philistins. Et David, il en apporte 200. Donc il a été un homme de sang. Il a tué 200 personnes pour avoir Michal, drôle de marché. Et puis, vous savez ce qui s'est passé avec Michal. Puis après, quand vous lisez le chapitre 25, il épouse une veuve qui est remarquable, qui s'appelle Abigail, mais il a déjà encore une autre femme, Akinoam. Et pourtant il sait qu'il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Mais Abigail lui a rendu service. Abigail est une belle femme. Il prend Abigail, puis après il prend Aquinoam, parce que c'est quand même un peu sa passion. Puis après, il pense, quand il va devenir roi, il faudrait bien que j'aie une femme de sang royal. Et qu'est-ce qu'il avait dû écrire ? Tu ne prendras pas quelqu'un d'étranger. Mais pour avoir du sang royal, eh bien, il épouse Maka, la mère qui va lui donner Absalom et qui est fille du roi de Guessur. Et il a un fils qui est magnifique, qui est d'une beauté remarquable, et qui s'appelle Absalom, et puis qui a une sœur qui s'appelle Tamar, qui est une très belle fille. Puis avec une autre femme, eh bien, David a aussi un autre fils qui s'appelle Amon, et puis il a encore une autre femme qui s'appelle Agit, qui lui donne un fils qui s'appelle Adonija. Donc vous voyez le nombre de femmes que David prend. Puis il en a encore une qui sera Bathsheba. Voilà le tableau de David. Alors ça lui donne pas mal d'enfants, mais ce qui montre la faiblesse de David, quand même, avec toutes ses femmes, eh bien, à un moment donné, et quand il est à Jérusalem, alors qu'il aurait dû aller en campagne avec l'armée, il reste à Jérusalem, peut-être pour se reposer, et puis il se lève de son lit, il se promène, il s'ennuie, puis là, il voit une femme qui est en train de se laver dans une autre maison, sur ses toits plats. Il la convoite, il a pourtant des femmes, il a pourtant des concubines, et il est passionné, il veut cette femme, il l'a, et puis une fois qu'elle est partie, eh bien, il est satisfait. Mais il a péché contre le Seigneur, parce que c'est la femme d'un autre. Qu'est-ce qu'il a fait de Bathsheba ? Une femme adultère. Mais comme c'est le roi qui est responsable, je ne vais pas enlever la responsabilité à Bathsheba, mais une femme qui est demandée par le roi, elle est presque obligée de se soumettre. Et voilà notre David, le double psalmiste d'Israël, qui écrit tous ses psaumes, qui en est là, dans sa passion avec les saints. Puis la pauvre, elle revient au bout d'un mois en lui disant « Je suis enceinte. » Il n'y avait pas de condom. Ce temps-là. Voilà, c'est comme ça la Bible. Hein. Elle vous dit les choses telles qu'elles sont. Et vous savez ce qui est arrivé. Il est devenu un assassin. Il a fait tuer Uri. Puis après, bon roi, il épouse la veuve. Mais ce qu'il a fait depuis au Seigneur, mais quand il est visité par Nathan, le prophète, il confesse son péché, il dit « J'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché. » Et il écrit le psaume 51 qui est sa confession. Un psaume magnifique qui était bon pour la restauration d'une multitude d'hommes qui sont tombés eux aussi. Mais alors vous comprenez que ayant vécu de cette façon-là, comment élever ses enfants ? Ça a été une catastrophe. Les enfants de David, comment faire la morale à vos enfants quand vous-même, père, vous ne vivez pas d'une façon régulière? Quand Amon a violé la sœur, c'est sa demi-sœur, la sœur d'Absalom, qui s'appelait Tamar, dans cette histoire très triste, eh bien, David, qu'est-ce qu'il peut lui dire? Peut rien dire à Amon, parce qu'il a fait la même chose. Papa fait comme ça, pourquoi moi je ne prendrais pas ma sœur? Il détruit son autorité. Père, soyez des pères responsables. Est-ce que vous ne voudriez pas avoir chez vos enfants? Eh bien, ne le faites pas, surtout si vous invoquez le nom du Seigneur. Mais David, malgré toute la connaissance qu'il avait de l'écriture, eh bien, il n'a pas agi avec fidélité et il a eu les conséquences. Vous savez que Absalom a tué après Amon, son demi-frère, pour venger sa sœur. Et lui-même, ensuite, Absalom a voulu tuer qui ? Son père. Voilà, un fils qui en arrive à vouloir tuer son propre père. Et quand, ça me bouleverse toujours, quand c'est Absalom qui meurt, tué par Joab, qui est le cousin germain de David, eh bien, quand il apprend la mort d'Absalom, vous voyez notre David qui se tient la tête et qui crie « Absalom, mon fils, Absalom, Absalom, mon fils, Absalom, que ne suis-je mort à ta place ?» Vous pouvez dire un tas de choses. « Que ne suis-je mort à ta place ?» Mais vous ne réparez pas cela. Quand on désobéit à l'Écriture, on peut être un bon roi David, on peut être le doux psalmiste d'Israël. Ça ne passe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Vous pouvez faire autrement que ce que dit l'Écriture. Mais souvenez-vous de l'exemple de David, un roi qui n'a pas su être un père. Et pour quelle raison? Eh bien, revoyez 1 Roi, chapitre 1, verset 6, seulement pour que vous en ayez la conviction que je n'invente rien. Quand Adonija, un de ses fils, a voulu prendre le pouvoir, eh bien, il est dit quelque chose qui révèle le caractère de David. Verset 5. Adonija, fils de Haggith, donc une des femmes de David, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, parce qu'on voyait que le père allait mourir, « C'est moi qui serai roi. » Et il se procura des chars, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Et verset 6, soulignez-le dans votre Bible. Son père ne lui avait dit de sa vie, il ne lui avait fait de sa vie aucun reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Le père n'avait jamais rien reproché à son fils. Il lui avait jamais demandé « Pourquoi agis-tu ainsi ?» C'est cela votre responsabilité et c'est votre privilège de vous occuper de vos enfants. Vous vous occupez d'une foule de choses, vous avez des plantes, vous voulez des fleurs, eh bien vous vous en occupez pour que ce soit beau. Et puis vos enfants qui sont les plus belles plantes, vous ne vous en occuperiez pas. C'est à vous, père et moi, de prendre mes responsabilités, et pas seulement de père, mais aussi de grand-père, ou peut-être arrière-grand-père un jour, que le Seigneur nous parle. Et dans l'histoire de Bathsheba, quand le premier fils de l'adultère est mort, alors David a compris quelque chose, et il a dit, ce n'est pas à moi qui irai, c'est pas à lui qui viendra vers moi, mais c'est moi qui irai vers lui. Puis, quand Dieu lui donne avec Bathsheba un second fils qui s'appellera Salomon, David, qu'est-ce qu'il fait? À qui confie-t-il Salomon? Au prophète. Il sent bien que lui, il a foiré et qu'il n'est pas capable de l'élever. Alors il lui donne un précepteur. Et comme précepteur, qui est-ce qu'il lui donne? Nathan, le prophète, celui qui est venu le reprendre. Et c'est Nathan qui a appelé Salomon Yédidia, parce que David n'était pas capable de l'élever. Mais Salomon, qui a été élevé par un prophète, qui a été tellement bien, mais dans sa jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait quand même du sang de son père, drôlement. Hein? Il a pris, lui aussi, 700 femmes, et 300 concubines. Vous comprenez qu'on meurt à 60 ans après ça. Et c'est vrai, Salomon est mort à 60 ans. Il était jeune. Et lui avait écrit que si tu persévères dans la parole du Seigneur, tu prolongeras tes jours. Il l'avait dit, c'est un texte de Salomon qui est inspiré quand il avait la sagesse. Mais tout ce qu'il a écrit, il ne l'a pas mis en pratique. Alors voilà pourquoi nous vous disons, nous retombons dans notre épître de Jacques, nous disons que nous avons la foi, nous disons que nous avons des connaissances, mais si nous ne pratiquons pas ces choses, si c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard, l'effet de la parole, si comme Jésus devait le dire, ma parole n'a pas d'accès auprès de vous, eh bien, notre vie, ça sera un échec. Et vous n'avez pas à dire que c'est la faute de Dieu. C'est notre faute de père. Nous avons comme père une responsabilité et un privilège, c'est d'élever nos enfants dans la crainte du Seigneur. Mais la première chose à faire, c'est de marcher d'une façon digne du Seigneur. C'est de collaborer avec nos épouses, notre femme, pour que nous ayons toujours la même pensée, élever notre enfant dans la crainte du Seigneur. Que Dieu nous bénisse par sa parole, que vous continuez à méditer et que vous puissiez vous dire, c'est quand même extraordinaire d'avoir en main un tel livre qui nous dit les choses d'une façon si limpide et si claire. Comme je vous l'ai dit souvent, il n'y a pas de tabou dans l'écriture, mais toute l'écriture est sainte. Et c'est pourquoi l'année dernière, nous avons pu parler du cantique des cantiques, sans en avoir honte. Dieu notre Père, nous nous courbons devant toi et nous te demandons que cette semaine de camp familial ait un prolongement dans nos vies, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous nous mettions à l'œuvre et que nous aimions davantage nos enfants, que nous sachions prendre du temps pour eux pendant qu'ils sont petits et qu'aussi tu nous donnes d'avoir à leur égard des pensées de modestie. Tu vois combien de parents ont perdu leurs enfants par leur ambition. Tu nous as parlé d'une mère ambitieuse, mais elle était ambitieuse pour ses enfants, pour le Seigneur Jésus. Mais combien souvent nous sommes ambitieux pour que nos enfants aient une position que nous n'avons pas pu avoir, dont nous nous sommes sentis frustrés, et quelquefois nous exagérons et nous arrivons à placer nos enfants sur le chemin du monde. Et c'est notre propre faute. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, nous voulons te demander pardon et te demander que nous soyons plus évangéliques et que, dans ta grâce, nous puissions nous associer aux choses humbles. Ne nous donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-nous du pain qui nous est nécessaire et que, dans ta grâce, nous soyons heureux d'avoir un Père qui nourrit les oiseaux du ciel, qui revêt les lys des champs et qui nous dit que nous valons beaucoup mieux qu'eux. Donne-nous cette confiance. Donne-nous la sagesse dont nous avons besoin pour que nos enfants, nous puissions les élever afin qu'ils soient beaux pour toi et qu'un jour nous puissions avoir la joie de les voir te servir et t'aimer parce qu'ils auront eu aussi des pères et des mères qui aiment et qui te suivent en Jésus-Christ. Amen.